Fiesta Mirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique, c'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine à la présentation. Josephine Jocelyn-Zima.
Suivez les émissions de la radio Indamba en direct sur le www.indamba.org.
Ouvrons cette rétrospective sur le chapitre des droits de l'homme. Les États-Unis d'Amérique ont levé des sanctions contre certains responsables des graves violations des droits humains. L'initiative pour les droits humains au Burundi déplore l'abandon de ces sanctions individuelles. Karina Tartsakian, chercheuse à l'initiative pour les droits humains au Burundi, annonce que ces individus, dont les sanctions ont été levées par les États-Unis, ont du sang dans leurs mains. Cette décision, selon elle, va renforcer l'impunité qui s'observe depuis 2015 au Burundi.
Nous sommes choqués par cette décision des États-Unis de lever les sanctions contre des personnes qui ont commis de graves crimes au Burundi. Quand vous regardez la liste de ces personnes, la décision, franchement, est incompréhensible. La liste inclut, par exemple, Alain-Guillaume Bunyoni, l'actuel Premier ministre et ancien ministre de la Sécurité publique, Godefroy Bizimane, l'ancien directeur général adjoint de la police et actuellement conseiller à la présidence, Gervais Ndirakobucha, l'actuel ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, et l'agent du Service national de renseignement Joseph Mathias Nyonzima, alias Kazungu. Toutes ces personnes ont du sang sur les mains. Elles ont ordonné ou participé directement à des assassinats, à des actes de torture ou à des emprisonnements arbitraires et d'autres violations graves des droits humains, surtout pendant la crise de 2015. Le gouvernement du président Évariste Ndayishimiye n'a rien fait pour faire traduire en justice ces personnes. Au contraire, certains ont même été promus à des postes élevés dans le gouvernement. Cette décision des États-Unis ne va que renforcer l'impunité qui protège déjà les auteurs de ces crimes et donne l'impression que les États-Unis ne se soucient plus des crimes qui ont été commis au Burundi ou du sort des Burundais. En plus, cette décision intervient vraiment au mauvais moment, alors qu'il y a une dégradation ces derniers mois de la situation au Burundi, avec une recrudescence des cas de disparition forcée, des cas de torture et des emprisonnements arbitraires.
Toujours dans le chapitre des droits de l'homme, une année après l'assassinat de Thierry Kugimana, inertie de la justice dans la recherche de la vérité sur la crise. C'est du moins le constat du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Cette organisation vise à voir que le Service national des renseignements a été toujours un obstacle dans la recherche de la vérité en orchestrant un montage grotesque contre la vérité de Thierry Kugimana. Pacifique Ninina Adwe, président du FOCODE, demande la libération de la veuve Christa Kaneza et la recherche de la vérité.
Thierry Kugimana a été tué par des hommes qui se sont introduits dans sa maison, dans sa chambre à coucher et qui ont tiré sur lui. Thierry Kugimana a succombé à ses blessures quelques heures après cette attaque. Ceux qui ont attaqué Thierry Kugimana ont laissé un téléphone lorsqu'ils se sont enfuis. Et ce téléphone a permis d'identifier l'un de ces assassins qui s'est retrouvé être un des agents du Service national de renseignement. Et un autre aussi qui a été présenté un peu plus tard par la police, a été également reconnu comme un autre agent du Service national de renseignement. L'enchaînement des faits, l'enchaînement, l'évolution du dossier a montré une implication très importante du Service national de renseignement dans ce crime. À part que les assassins ont été identifiés comme des agents du renseignement, il est extrêmement important de rappeler qu'au moment de la présentation des présumés auteurs du meurtre de Thierry Kugimana au parquet, un de deux agents du renseignement a été sorti alors qu'il se trouvait déjà devant un officier du ministère public. Il a été ramené au Service national de renseignement où il aurait été battu, il serait revenu et là on l'accusait d'avoir refusé d'affirmer qu'il avait été envoyé par l'épouse de Thierry Kugimana à commettre le meurtre. Par après, lorsque des juges ont décidé la libération provisoire de la veuve de Thierry Kugimana, Madame Rita Kaneza. On se souvient que le responsable du département intérieur du service national de renseignement, Alfred Innocent Museremu, s'est présenté à la prison d'Omimba et s'est opposé à cette libération provisoire. Et tout récemment, c'est la cour d'appel d'Omoa qui a encore une fois décidé la libération provisoire de Rita Kaneza. Et selon les informations à notre disposition, encore une fois, Alfred Innocent Museremu, de connivence avec le procureur général Aristide Senghiyumba, continue de presser pour que Rita Kaneza ne soit pas libéré. Donc ici, il y a lieu de se poser une question: quel est l'intérêt d'Alfred Innocent Museremu dans ce dossier, en sachant que les présumés assassins et qui auraient même avoué d'avoir tué Thierry Kubimana sont des agents sous les ordres d'Alfred Innocent Museremu.
La campagne d'activisme et des violences basées sur le genre a débuté ce 25 novembre. Les réfugiés du camp de Mahama reconnaissent que ce genre de violence existe dans le camp, comme certaines femmes le disent.
Il arrive que les femmes subissent des harcèlements sexuels, des filles qui sont obligées de coucher avec les hommes pour avoir de quoi mettre sous la dent à cause de la pauvreté.
La plupart de nous appartenons dans des clubs qui ont l'initiative d'encadrer les jeunes filles qui ont connu des problèmes de la vie et entre autres des grossesses précoces et des jeunes garçons qui consomment des stupéfiants afin de les redresser.
Les jeunes filles sont attirées par des cadeaux empoisonnés des garçons. Pour finir, ils couchent avec elles. Si elles ne sont pas engrossées, elles attrapent des maladies sexuellement transmissibles. Comme solution, nous demandons qu'il y ait une assistance à ces groupes de jeunes pour satisfaire leurs besoins afin qu'elles échappent à ces tentations. Ces filles s'adonnent à ces actes pour chercher la vie. Nous estimons que si les filles parvenaient à avoir les besoins en hygiène, cela pourrait réduire ces actes de violence basés sur le genre.
C'est la grogne au sein des enquêteurs de l'Institut des statistiques du Burundi, ISTEBU. Pour cause, la disparité liée aux perdièmes qu'ils perçoivent pendant la période des enquêtes. Ils demandent la levée de ces disparités qui ne font que semer la division au sein du personnel. Les détails avec Georges Nimenya.
Cette grogne du personnel qui mène des enquêtes au sein de l'Institut des statistiques du Burundi, ISTEBU, se fonde sur les disparités des perdièmes accordées aux différents enquêteurs sur les données statistiques du pays. Selon nos sources recueillies à l'interne de l'ISTEBU, les proches de la direction générale se taillent à part du lion. Le cas le plus parlant est celui de l'enquête récemment menée dans le cadre du Covid-19 et celui en rapport avec les caféiers. Les enquêteurs proches de la direction ont perçu chacun plus de 20 millions de francs à bout, alors que d'autres n'ont reçu qu'un million, comme le témoigne l'un d'entre eux.
Je peux donner comme un simple exemple l'argent récemment payé pour la deuxième tranche où les simples enquêteurs qui descendaient au niveau des collines pour obtenir des données n'ont perçu comme perdième que 480 000 francs à bout. Quant aux contrôleurs, chacun a empoché 540 000. Alors que le groupe des superviseurs, les enfants chéris de la direction ont perçu chacun 4 600 000. Cela n'est qu'un simple constat. La situation a toujours été ainsi. Durant le recensement sur les caféiers récemment mené par l'ISTEBU, ce petit groupe s'est taillé la part du lion. Chacun a touché plus de 20 millions, alors qu'un simple enquêteur n'a reçu qu'un million de nos francs.
Suite à ces grognes, la direction de la radio Inzamba, Agathe Akawe, a appelé sans succès Ndayishimiye Nicolas, directeur général de l'ISTEBU, pour plus d'éclaircissements sur son dossier.
Les percepteurs de taxes dans la mairie de Bujumbura accusés de détournement d'un montant de plus de 50 millions ne devraient pas seulement restituer ce montant, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur, la Sécurité publique et le Développement communautaire, Gervain Dirokobucha, mais aussi la loi devrait être appliquée. C'est ce qu'indique Gabriel Oussiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Comme en sigle, pour lui, l'État doit fonctionner sur base de la loi pour traduire ses percepteurs d'impôts devant la justice. Le point avec Vanessa Mriteka.
Des percepteurs d'impôts de taxes à Marais de Bujumbura ont indiqué au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de Développement communautaire, Gervain Dilakoubucha, que certaines parmi les raisons qui les poussent à détourner l'argent récolté, il y a un salaire bas par rapport à leurs efforts. Le ministre Dilakoubucha a montré à son tour comme cette affaire est pénale, faux et usage de faux, mais après il a proposé à ses percepteurs de remettre le montant détourné et poursuivre leur travail.
Tout d'abord, vous avez commis une infraction grave, faux et usage de faux, puni par le code pénal burundais. Pas question de remettre cet argent par tranche. Nous sommes mercredi. Je vais voir son montant de plus de 51 millions dans les comptes de la mairie de Bujumbura plus tard lundi. Remboursez cet argent et poursuivez votre travail.
Pour Gabriel Lufsili, président de l'UICOM, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ces percepteurs de taxes ne devraient pas seulement restituer ce montant de 51 598 000, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur, la Sécurité publique et Développement communautaire, Gervain Dilakoubucha, mais aussi la loi devrait être appliquée car l'État doit fonctionner sur base de la loi.
Je voudrais vraiment insister que ces percepteurs, malgré qu'ils pourraient être en tort, il faut que la loi soit suivie. Il faut qu'ils puissent être écoutés un à un sur la base d'une procédure légale, afin que chacun voit ce qui lui est reproché. Je pense que c'est le seul moyen, c'est la seule voie qu'il faut suivre. Comme ça, personne ne dira qu'il a été traité injustement. Mais les lois, comme je le disais, sont là pour encadrer toute action gouvernementale. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on va avancer progressivement.
Vous saurez que ces percepteurs de taxes à impôts dans le secteur de transport en mairie de Bujumbura négocient avec le ministre Gervain Dilakoubucha de remettre le montant détourné.
12 ménages de Burundais demandeurs d'asile au camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie sont emprisonnés dans le cachot de la police dès leur arrivée. C'était jeudi dernier dans l'après-midi. Ces Burundais composés d'enfants, de femmes et hommes sont originaires de la province de Lutana. Des sources sur place indiquent qu'ils ont été sérieusement battus avant leur emprisonnement. Les détails avec Benny Extrakana.
Ces Burundais demandeurs d'asile en Tanzanie sont répartis en 12 ménages. Ils sont arrivés au camp de Nyarugusu vers 14h de ce jeudi. Après une longue marche à pied depuis Lutana, leur province natale, ils sont arrivés au camp de Nyarugusu, mais le séjour ne leur a pas été bon à cause du représentant du camp qui ne cesse de menacer les nouveaux venus, voulant les faire retourner chez eux par force.
Quand ils sont arrivés à la police, ils se sont déclarés réfugiés et qu'ils sont natifs de la province Lutana. La police leur a demandé s'ils auraient des parentés dans le camp pour qu'ils puissent faufiler parmi les réfugiés étant donné qu'il y a un climat malsain. Le représentant du camp est toujours à la recherche de nouveaux réfugiés pour qu'ils les fassent retourner dans leur pays, le Burundi.
Quand le représentant du camp est arrivé, il a donné l'ordre aux policiers de frapper ces réfugiés. Un ordre qui a été vite exécuté. Ils ont été sérieusement battus, leurs téléphones confisqués, et par après, on a conduit ces Burundais au cachot.
À ce moment, le représentant du camp est arrivé. Il a intimé l'ordre aux policiers de frapper ces réfugiés. Ils les ont sérieusement battus. Ils ont confisqué leurs téléphones avant de les conduire au cachot. Les femmes et les filles ont été séparées des hommes et ont bénéficié de quelques matériels de couchage.
Nous n'avons pas pu joindre le représentant du camp de Nyarugusu alors que nous cherchions sa version par rapport aux accusations. Pour rappel, au mois de février dernier, le camp de Nyarugusu hébergeait 50 000 Burundais et 60 000 Congolais. Même si les Burundais sont souvent rapatriés, le constat est qu'il y a encore des Burundais demandeurs d'asile, parmi lesquels ceux qui étaient rentrés, un signe qui montre que l'insécurité persiste au Burundi.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon dimanche chez vous. À la prochaine.
Zamba
Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.